Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, nous allons parler d'une association LGBT à Compiègne, LGBTQI+. On en parle juste après le générique. Ce matin, comme invité avec moi, le président de l'association Clin d'œil. Bienvenue sur les ondes de Graphite, Olivier, bienvenue chez nous.
Merci de m'accueillir, en tout cas, c'est très cool.
Donc on enregistre cette émission, tu m'as envoyé un petit message sur Facebook, donc comme quoi, n'hésitez pas à envoyer des messages sur Facebook si vous voulez passer dans la matinale, on vous recevra avec grand plaisir. On parle de l'association Clin d'œil LGBTQI+. On va commencer par QI+, c'est quoi? Sort LGBT, tout le monde voit à peu près ce que c'est, mais QI+, c'est quoi aujourd'hui?
On peut quand même le rappeler, le LGBT, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Donc lesbien, gay, bi, transidentitaire ou transgenre, et queer et intersexe pour le QI. Donc après, quand on va dire un tout petit peu le plus, ça va intégrer tout ce qui est asexué ou encore... pansexuel et même hétérosexuel, parce qu'il faut savoir que quand on intègre le plus, pour nous, c'est aussi une association qui est ouverte à toutes et à tous et autres. Donc du coup, c'est pour tout le monde. On n'est pas que pro-LGBT, quoi.
Du coup, pansexuel, c'est quand on tombe amoureux de la pensée, en fait, de la personne, c'est ça?
C'est ça, un tout petit peu, en fait. Il y a beaucoup de définitions diverses et variées. La pansexualité, c'est on aime une personne, pas forcément pour sa sexualité ni son physique, mais pour ce qu'elle est réellement et ce qu'elle nous fait ressentir, tout simplement.
Il y a un peu une avancée, parce qu'avant, c'était uniquement LGBT, là, de rajouter, du coup, encore plus de monde
rajouter plus de monde, c'est l'histoire de n'oublier personne. Okay. Et donc du coup, c'est les sexualités, aujourd'hui, elles sont diverses et variées. Je dirais pas qu'elles se développent et qu'il y en a de plus en plus, c'est qu'en fait, elles ont toujours existé et c'est qu'on n'en parlait pas. Et donc du coup, elles n'étaient pas forcément connues de toutes et de tous.
Donc avant, on était juste hétéro ou homosexuel. Aujourd'hui, maintenant, on peut être différentes facettes, quoi.
Exactement.
L'organisation d'une association LGBTQI+, à Compiègne, c'est compliqué. On sait que Compiègne est plutôt traditionnel, avec une mairie plutôt à droite et pas plutôt favorable à la lutte.
Donc créer ça à Compiègne, c'est un défi un tout petit peu. Donc on va se le cacher en étant dans le plafond de la Manif pour tous, un tout petit peu, en sachant qu'ici ils sont un peu pro-catholiques, même on peut dire il n'y a pas forcément que des cathos, donc du coup attention. Mais je veux dire, étant dans une ville où la question LGBTQI+, elle est un peu difficile, où on sait très bien qu'ils ont fait partir une bonne dizaine de bus pour aller manifester contre le mariage pour tous. Et donc, du coup, en plus, là, avec la question de la PMA, de la GPA, qui revient un tout petit peu d'actualité, parce que notre très cher président, M. Macron, nous a dit qu'il remettrait ça, en fait, sur son programme. Et donc, actuellement, on attend toujours. Donc, du coup, on sait très bien que sur Compiègne, on va encore voir des petits oiseaux sur la place de la mairie qui diront à papa et maman de mon pense d'enfant. Mais on leur rappellera qu'il faut arrêter qu'ils mentent, parce que ça existe réellement.
Là, il n'y a pas que la Manif pour tous, puisqu'il y a même Agnès Thil, ancienne élue Parti Socialiste, qui aujourd'hui à La République En Marche, repose des questions un peu étranges au gouvernement.
Un tout petit peu, ouais. Donc du coup, je ne me suis pas forcément très intéressé à ce personnage. Il y a de quoi travailler. Et donc du coup, voilà. Nous, on va partir sur le principe qu'on est quand même une association qui est apolitique. Donc du coup, on ne va pas prendre aucun parti politique, ni d'orientation politique. Donc du coup, après, c'est simplement, dès qu'il y a une problématique qui va aller à l'encontre de nos droits et de notre dignité, tout simplement, on va aller militer pour justement faire comprendre que nous sommes là et que derrière, c'est une problématique qu'il faut traiter, parce que c'est une discrimination. Et quand on parle d'égalité, de fraternité, et donc en France, donc, du coup, il faut aussi être ensemble pour pouvoir être égaux.
Comment ça s'est lancé, cette association? C'est quoi la genèse un peu du projet?
Alors, la genèse du projet, tout simplement, on a commencé avec une association qui date de 8 ans, qui est sur Amiens, qui s'appelle Flash Our True Colors, en fait, projetons nos vraies couleurs en français. Donc, du coup, parce que le mot anglophone, on l'utilise énormément, donc du coup, voilà. Et on a commencé, en fait, à migrer un tout petit peu nos apéros, en fait, parce que tous les derniers lundis du mois, à Amiens, on organise un apéro LGBT, QI+. Et donc, du coup, on a décidé, tout en discutant, moi étant vice-président de cette association sur Amiens et habitant Compiègne, je me suis dit, il y a quelque chose à développer sur Compiègne, parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun lieu identitaire, en fait, pour pouvoir être nous-mêmes, en quelque sorte, ou se retrouver entre nous. Et donc, du coup, j'ai décidé, en fait, de tous les deuxièmes lundis du mois, depuis le mois de mars 2018, à Compiègne, de migrer des apéros, en fait, tous les deuxièmes lundis du soir. excusez-moi, je me bafouille un peu. Et donc, quand on a vu que le projet plaisait et qu'il y avait de plus en plus de monde, quand on a fait la première à la Maison Bleue, donc à l'époque, avec Julien Kneck et l'association, 40 personnes, quand même, on s'est dit waouh, pour une première, c'est quand même pas mal. Donc, après, bon, il y a eu du tri, forcément, les gens s'y sont plus ou moins intéressés, ils se sont rendus compte que ça ne correspondait pas à leurs attentes. Il y en a qui ont aimé énormément l'association et qui ont continué à nous suivre. Et tout en discutant au fur et à mesure des mois et en rencontrant des personnes donc locales à la ville, on s'est dit pourquoi pas créer une association identitaire à la ville au lieu de créer une annexe de cette association. Et là donc j'ai tout simplement, parce que j'étais meneur du projet, hein, je le cache pas, et donc du coup j'ai tout simplement vu avec des personnes éventuelles qui pouvaient être intéressées à créer ce projet là avec moi. Donc on a créé quand même une équipe de 9 personnes, donc 14 membres fondateurs, il faut pas l'oublier. Donc je les remercie encore aujourd'hui d'être présents. Et donc du coup, on a créé l'association Clin d'œil LGBTQI+. Donc du coup, voilà, le projet en soi, c'était de créer une association de lutte contre les discriminations faites aux personnes LGBTQI+, et entre personnes LGBTQI+. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas plus discriminant de temps en temps qu'un homosexuel lui-même. Et donc qu'une personne LGBT en elle-même. Donc du coup, voilà. Et donc le projet est né, donc du coup, depuis le 14 décembre. Et donc là, aujourd'hui, c'est un peu de la petite promo, on en discute un peu, et puis on essaye de se faire connaître. Donc du coup, en tant que Clin d'œil LGBTQI+, et nous en tant que Flash, comme ils ont pu connaître, Flash est diminutif de Flash à Watercolors. Hein. Donc du coup, voilà, leur faire comprendre qu'on est une nouvelle association, qu'on est là pour eux, et qu'on va travailler sur tout le secteur de l'Oise, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des gens de Chantilly, de Creil, de Beauvais, aussi un tout petit peu de Soissons, même si c'est pas dans l'Oise, on va pas les repousser, hein, donc on les aide quand même.
Discriminer même si voilà. Madeleine, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Donc du coup, il y a matière à travailler au niveau de la convivialité, de l'échange, parce que c'est un point fort de l'association. Donc le but aussi, c'est de créer des moments de rencontre, tout en convivialité, échange, bienveillance, de longs jugements, pour éviter en fait de se retrouver comme des couillons sur, excusez-moi de l'expression, sur une application de rencontre en fait où il y a personne, soit ne va pas venir vous parler parce qu'elle va vous juger sur votre physique et finalement elle pourrait devenir un très très bon ami à vous. Et donc l'objectif, c'est de casser un peu tous ces clichés qu'on peut avoir ou tous ces préjugés qu'on peut avoir sur les sites de rencontre ou autres, ou même dans un bar. Quelquefois on n'a pas forcément envie d'aborder une personne qui est au bar parce qu'elle nous intéresse pas, donc on n'est pas vraiment sur un objectif de drague en fait, on est vraiment sur un objectif de rencontrer une personne pour apprendre à la connaître, et que quel que soit son sexe et son orientation sexuelle.
Des lieux de rencontre à Compiègne LGBT et queer, ça existe encore. Il y a eu du coup le Boys Bar, il y a eu le Top Bar, il y a eu en les rues piétonnes, comment ça s'appelle,
le
Saint-Clair. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des lieux un peu estampillés LGBT ou queer? Alors, à Compiègne,
à ma connaissance, non. Beaucoup de personnes donc, sont habituées au Saint-Clair, parce que c'est quand même le seul établissement sur les trois cités qui est encore ouvert. Donc du coup, il y en a certains qui y vont par habitude. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de lieu identitaire, donc de bar type donc agréé et donc reconnu LGBT sur la ville. Après, donc il suffit de faire 30 km. C'est con à dire, mais on va à Nogent-sur-Oise. Il y a le bar qui s'appelle L'Arrosoir, qui est un bar LGBT, donc qui est tenu par mon très cher ami Karl, qui me remerciera de lui avoir parlé de lui aujourd'hui. Et donc, du coup, 30 km à faire pour pouvoir donc aller boire un verre dans un bar communautaire.
Mais ça manque du coup à Compiègne, puisque c'est vrai qu'en général on se retrouve en communauté, hein, les rockers vont dans les bars de rockers, ceux qui ont en général 40 ans vont dans les bars à vin, voilà, on est souvent sur des points de vue affinitaires.
Alors l'avantage qu'on a, c'est que nous on peut se mélanger partout, mais parce que bon, on a des rockers chez les homos, il y a tout ça, il y a des quarantenaires qui aiment le vin, et donc du coup même des trentenaires, et donc du coup voilà, mais je veux dire oui, c'est vrai que ça manque un peu d'avoir un petit bar où on peut se retrouver simplement entre personnes LGBT et donc QI+, faut pas que je l'oublie, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Et donc du coup
là en général dans les bars c'est plutôt LGBT et queer quoi. Plus les gens peuvent aller dans n'importe quel lieu.
Il y a
lieu,
du plus parce que finalement il y a des personnes qui ne se sentiraient peut-être pas concernées parce qu'elles n'ont pas cette orientation ou cette identité de genre, et donc du coup qui se déplacent quand même parce que soit elles accompagnent un ami ou soit en fait c'est tout simplement pour passer un bon moment parce que bon ben voilà, on prend simplement l'exemple de la fille qui a pas envie de se faire draguer par des gros bolosses dans une boîte, elle préfère aller dans une boîte gay tout simplement parce que elle aura plein de copains et pas plein de prétendants en fait.
Ouais, et puis elle se fera pas draguer toute la soirée.
C'est un tout petit peu un cliché ce que je suis en train de sortir.
Mais c'est vrai en général.
Mais en général c'est vrai. Mais donc du coup c'est plein de petites choses comme ça. Donc du coup après voilà, nous on est une association, on veut pas se dire communautaire comme j'ai expliqué par rapport au QI+. Donc du Du coup, parce qu'en fait, on veut que tout le monde se sente bien chez nous. Et donc, du coup, après, on me dit, mais pourquoi alors avoir fait une association si tu veux que tout le monde soit mélangé? Bah, je dis, l'objectif aussi, c'est que les gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nous et qui ne connaissent pas forcément la problématique viennent nous rencontrer et qu'on discute plus facilement avec eux. Parce que si on se ferme à rester contre nous, là, on devient communautaire. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on ne veut pas.
Ouais, c'est pour structurer aussi communiquer, quoi.
Voilà, c'est ça, tout petit peu. En gros, c'est ça.
Là, les premières actions, ça a été des rencontres, du coup, des apéros rencontres. C'est quoi les prochains rendez-vous?
Alors, il y a eu des apéros rencontres qui ont été faits donc cette année, bien sûr, depuis le mois de mars, tous les mois. Il y a aussi eu des ciné-débats avec le Majestic, qui est un gros soutien. Donc parce qu'en fait, on est en train de monter un projet avec le Majestic, c'est de faire un festival LGBT sur 3 jours, donc de films LGBTQI+, la thématique du mois. Et donc du coup, tous les mois, là, depuis 6 mois, on essaye de diffuser au minimum un film LGBT sur Compiègne. Donc c'est un peu une façon de lutter aussi contre l'homophobie et les discriminations qui vont avec, parce qu'en fait, c'est ouvert à toutes et à tous. On est quand même dans un lieu public où il y a quand même une affiche, une notoriété, c'est quand même le Majestic, c'est pas rien. Et donc du coup, il y a forcément des gens qui vont être curieux et qui vont dire, tiens, je veux quand même aller voir le film, même si je suis peut-être pas d'accord. Après, ils s'attendent pas qu'il y ait un débat à la fin. Et donc, du coup, c'est ça qui est intéressant. Et donc, le fait est que c'est quelque chose qui commence à se développer, qui commence à fonctionner. On a décidé, en fait, d'en faire un festival avec Quentin Delcourt, qui est, en fait, le directeur de la programmation du Majestic, et qui tient à cœur ce projet, parce que, bon, voilà, il trouve que, bah, il faut travailler ces thématiques. Et il faut qu'on en parle, parce que, finalement, aujourd'hui, on parle de racisme à l'école. On parle de
discrimination
en tout genre, mais l'homophobie, généralement, on l'oublie un tout petit peu. Et donc, du coup, le fait est de les mettre en salle de cinéma, donc c'est un peu... Le cinéma représente tout simplement la vie quotidienne des gens. Donc, on se reconnaît tous dans un personnage au cinéma, et donc, du coup, si on va au cinéma, c'est qu'il y a quelque chose qui nous plaît. Et donc, du coup, si on peut mettre des films à thématique, les gens vont peut-être se reconnaître... Peut-être qu'il se reconnaîtra en tant que le gros homophobe du film. Hein. Donc du coup, tant mieux pour lui s'il se reconnaît dans le film. Mais après, derrière, il y aura une discussion qui pourra être amenée à comprendre pourquoi lui, il n'aime pas ça. Donc du coup, on n'est pas là non plus pour le persécuter. On n'est pas là pour le juger par rapport à son,
qu'il y ait vraiment un échange,
à son choix. Le but, c'est d'avoir un échange. Parce que c'est un choix d'être homophobe. Hein. Donc être homosexuel, n'en est pas.
On écoute un extrait musical. On se retrouve juste après. Ça sera, oui, Petit Fantôme avec Libération Terrible. Et on parlera encore de cette association. Et on parlera également des rencontres qu'on... Où est-ce qu'on pourra vous retrouver? Tout de suite, Petit Fantôme dans la matinale. Petit fantôme dans la matinale, graphite, www.graphite.net, 94.9 FM, toujours avec Olivier Franqueville, pour parler de l'association Clin d'œil LGBTQI+, donc l'association compiénoise, qui a maintenant, c'est combien, un an d'existence, un peu moins ?
Ah non, même pas, parce qu'en fait, on s'est créé le 14, comme je te dis, 14 décembre, mais donc du coup, elle a un mois, donc du coup, un mois et demi, mais derrière,
il y avait déjà des actions
qui se faisaient avant sous notre association, en fait. Grâce à cette association, on a pu donc en créer une nouvelle, donc du coup, on la remerciera encore, même, hein. Donc, du coup, je les oublie pas, donc du coup, ma petite équipe amiénoise, ils nous ont aidé à nous lancer, donc du coup, c'est ça qu'il faut retenir. Grâce à eux, en fait, il y a quelque chose qui s'est créé sur Compiègne, et donc du coup, on va pas cracher dessus, et donc du coup, ils nous ont bien aidé à nous lancer.
Là, des événements plutôt festifs, des rencontres, ce genre de choses, est-ce qu'il y aura des moments, est-ce que vous allez monter au créneau en cas de, justement, on avait eu les histoires d'Ariel François avec ses tweets homophobes ou ce genre de choses, est-ce que du coup, l'association aura un but de défense vraiment devant
les
tribunaux?
Oui, bien sûr, on a un but principal aussi, c'est de faire reconnaître la dignité des personnes LGBTQI+, et les droits. Et donc, du coup, si bien sûr, il y a quelque chose qui va à l'encontre de nos droits ou de notre dignité, bien évidemment que l'association sera présente. Et donc, on n'a pas peur d'aller se placer place de la mairie, donc du coup, pour pouvoir soit rencontrer la Manif pour tous, parce qu'on sait très bien qu'elle est présente, même Alliance Vitas ou Civitas sur Compiègne, quand ils vont faire leurs actions, par exemple, pour la PMA, qui revient. Donc, du coup, on sera présent, bien sûr, on ira les rencontrer. Et s'il faut faire une contre-manif, on fera une contre-manif, bien évidemment. On n'est pas forcément sur cet objectif de contre-manif. L'objectif, c'est qu'il n'y en ait pas du tout, en fait. Mais derrière, voilà, oui, bien sûr qu'on va être présent et on va être mobilisé sur ces sujets.
Comment on se sent au quotidien quand on habite dans la ville de Compiègne? Est-ce qu'on se sent du coup un peu pas aimé? Est-ce qu'on se sent mis de côté? Comment on se sent en tant que citoyen?
Moi, ça fait 5 ans que j'habite ici. Je parlais un tout petit peu de mon expérience et de mon vécu, parce que c'est une question... c'est vrai qu'on en reparle entre nous, bien évidemment. Si, en fait, on veut vivre discrètement, Compiègne est une ville idéale. Parce qu'en fait, tu ne veux pas te montrer, tu ne te montres pas. Donc, du coup, mais c'est un problème derrière. Donc, du coup, ça veut dire que si, en fait, tu ne te montres pas, c'est que tu ne te sens pas accepté dans la ville et tu sais qu'il y a une problématique. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas encore vécu cette expérience de me promener main dans la main dans les rues de Compiègne. Je pense que ça poserait problème. Parce que, bon, j'en ai déjà entendu des personnes qui, soit l'ont fait, sont pris des insultes, ou soit l'ont fait ou ont pris des regards. Donc, du coup, parce que l'homophobie aussi, c'est pas forcément physique, hein, ça peut être moral. Donc du coup, tu te sens pas forcément à l'aise. Bon, après, je sais pas si sur Compiègne ou autre ville, parce que bon, sur Amiens, c'est des grosses agglomérations. Après, c'est plus discret, on va dire, même si tu te promènes main dans la main, c'est moins visible que sur Compiègne. C'est quand même un petit centre-ville, c'est quand même une petite ville, donc du coup, tout le monde se connaît.
C'est un village presque.
Ouais, c'est village compiénois, bonjour, Compiègne village. Et donc, du coup, ouais, non, ça peut être problématique. Après, bon, voilà, si tu veux être dans la discrétion, tu veux faire ta petite vie tranquille, ouais, c'est ou te faire comme les petits retraités, en fait tu bouges plus de chez toi et puis tu sors pas, quoi. Et c'est pas l'objectif.
Mais avec les politiques, est-ce que du coup on sent un sous-citoyen, ou est-ce qu'on sent mis de côté, ou pas du tout?
Vu qu'il y a rien qui est fait pour pouvoir nous faire reconnaître, ou même pour pouvoir nous faciliter les choses, oui, c'est pas simple. Non.
Là, aujourd'hui, vous êtes combien d'adhérents? Il y a combien d'adhérents, du coup, dans l'association?
Alors, donc, là, dans l'association, on ne peut pas vous mentir, pour l'instant, il y a que l'équipe.
L'équipe de création,
oui. L'équipe de création, on est 9 personnes. Donc, du coup, pour l'instant, on n'a que 9 adhérents. Après, on a tous les partisans, bien évidemment. Donc, tant que l'association, en fait, n'est pas définitivement déclarée en préfecture et au journal officiel, et tant qu'on n'a pas d'assurance, tout simplement, en fait, on ne prend pas les adhésions. Donc, on veut vraiment faire les choses correctement et en sécurité. Parce que c'est vrai, quand on va faire une action, et si on n'est pas, assuré, et si on n'assure pas nos membres, ou même les personnes qui sont présentes, en fait, on risque d'avoir aussi des problématiques. Et donc, du coup, pour l'instant, on n'est que 9 adhérents. Donc voilà, mais ça risque de changer très rapidement, parce qu'on a quand même beaucoup de partisans qui nous suivent déjà depuis un an, donc avec l'autre projet qui était avec l'autre association, du moins. Et donc du coup, voilà, c'est des gens qui donc forcément vont nous suivre, parce que la ligne de conduite est la même, en fait. Donc du coup, ça va, il y a juste le nom qui change et qu'il y a une structure qui s'est créée. Et sinon, voilà, derrière, c'est eux qui réclament, bon, c'est quand qu'on peut payer l'adhésion. Et donc du coup, voilà, donc en plus, quand je leur dis le prix, ils sont très contents, parce que je leur dis, c'est 10 euros annuels, 88 centimes par mois, c'est pas une ruine. Et donc du coup, parce que je dis ça en rigolant, mais parce qu'il y a des, donc quelquefois pour 10 euros, pour certains, ça peut être compliqué. Donc du coup, parce que tout à l'heure tu me demandais où je faisais mes lieux en fait d'apéro. Donc tu m'as demandé si je faisais ça dans des bars. Et en fait, on a la volonté de pas vouloir le faire dans des bars, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a des gens en fait qui ont pas forcément les moyens d'aller s'offrir un verre dans un bar. Donc le but, comme on disait tout à l'heure, que ça soit ouvert à tous et à tous, c'est vraiment de trouver un lieu en fait où il y a la gratuité qui est assurée. Nous, quand on fait nos apéros, on met une base et après on demande aux personnes s'ils veulent participer, donc voilà, de participer. Mais ce n'est pas une obligation, parce qu'on peut comprendre aussi que bah, y a des gens qui vivent dans la précarité, et donc aussi c'est un moyen de lutter contre la précarité, de leur ouvrir un endroit.
Ça discrimine pas quelqu'un qui n'a pas les moyens d'aller dans un bar.
Voilà, et donc du coup on leur offre un verre, et donc et après ils nous le rendent autrement, hein, donc du coup, et puis de toute façon on fait pas ça non plus pour avoir un retour, mais je veux dire voilà, donc ils savent tout simplement qu'ils ont un lieu où ils peuvent venir, même si ils n'en ont pas les moyens, parce que c'est gratuit. Et donc du coup, et on dit toujours que la gratuité attire. Et donc du coup, mais
bon. Là, vous avez, c'est où ces rencontres ?
Alors donc là, donc dernièrement, en fait, c'est des rencontres qui se sont faites à la Maison Bleue. Ouais. Après, on a migré dans les locaux d'un ancien donc magazine en fait qui était Culotté Magazine, donc ils nous prêtaient donc leurs locaux pour pouvoir faire nos activités. Et après, en fait, on a migré dans mon appartement personnel parce qu'en fait, on n'avait pas de lieu, ce qui commençait à être problématique. Et donc du coup, je me suis renseigné un tout petit peu sur le Compiénois et son agglomération. Et un jour, en fait, j'ai croisé Monsieur le maire de Margny-les-Compiègne, et je l'ai pris en aparté avec culot en lui demandant s'il pouvait me donner un local. Et donc du coup, celui-ci m'a dit bon, on prend rendez-vous, il y a pas de problème. Et donc du coup, ce matin, j'ai reçu un petit mail pour savoir quand on allait commencer à faire nos actions dans leurs locaux. Donc du coup, ça c'était une réponse positive. Au moins une fois par mois, en fait, on va avoir l'accès à un local donc sur Margny-les-Compiègne.
Vous avez eu l'asile politique à Margny-les-Compiègne. Vous avez traversé l'Oise.
On a traversé l'Oise un tout petit peu. De toute façon, déjà à l'origine, on traversait déjà l'Oise pour pouvoir faire nos apéros, parce que les locaux où on était avant sont tous de l'autre côté de l'Oise. Parce que moi-même, je suis pas marniotin, mais je vis dans le petit Margny, donc qui est compiénois. Donc du coup voilà. Mais donc il y a un local qui va être mis à disposition une fois par mois. L'objectif, en fait, ce qui serait idéal, c'est que la mairie de Compiègne nous attribue un local permanent, parce que bon, ça serait vraiment un lieu où on pourrait justement être identifié, où on aurait une façade indirectement, c'est important. Donc c'est une image,
une vitrine
un tout petit peu. Et donc du coup, on sait que tiens, on va aller là, on sait que c'est là, et donc du coup, il y a pas de problème. Donc du coup, voilà, l'objectif aussi, c'est de créer des permanences. Donc du coup, les permanences, par exemple, on est très sensible parce qu'on a un petit jeune de 17 ans dans l'association qui est membre du conseil d'administration, et donc il me parle tout le temps. Je fais ouais, mais nous en tant que gamin, en fait, on est sur la question de on se découvre, on s'est découvert, on veut s'assumer, mais derrière il y a la problématique des parents, parce que soit ils sont pas outés, ou soit ils sont outés mais derrière ils ont aucun lieu pour pouvoir se retrouver, et donc du coup, et en dehors de l'école il y a rien. Et donc du coup, tout en discutant, en fait, on a peut-être un petit projet qui va naître, donc c'est de créer en fait des après-midi juste pour les jeunes, tout simplement. Quand je dis les jeunes, je vais considérer que ça soit de 16 à 25 ans.
Pour les ados, quoi. Voilà. Enfin, ados et jeunes adultes.
Et jeunes adultes. Et donc, du coup, qu'ils puissent se retrouver et discuter des problématiques entre eux, tout simplement. C'est de leur ouvrir un accès, en fait, en dehors de l'école, parce qu'on ne peut pas se permettre, en fait, on n'a pas d'agrément pour pouvoir aller faire de la prévention dans les écoles. Et la prévention ne fait pas tout. Aussi, il faut savoir qu'il faut les accompagner, il faut les soutenir. Et le fait est de créer ces permanences. Donc c'est aussi un lieu pour eux de pouvoir. Donc c'est un lieu pour qu'ils puissent venir discuter en fait, et d'avoir un soutien moral et physique aussi, parce que quelquefois il y en a qui sont dans la solitude. Et on parle aussi des personnes qui sont. Quand on dit solitude, ça peut être de tout âge, hein. Donc du coup, on a aussi des personnes dites âgées qui sont aussi dans la solitude, et donc du coup, qui ont du mal à se faire une place, parce que déjà à leur âge, quand ils avaient notre âge, donc s'assumer, c'était déjà pas l'actualité.
Plus difficile, bien sûr.
Et donc du coup, ils se sont assumés beaucoup plus tard. Donc du coup, il y a encore la question, t'as vu, il a quitté sa femme parce qu'en fait, il aimait les hommes. Donc il a toujours aimé les hommes. C'est juste qu'en fait, il était dans l'obligation de se marier. Et donc du coup, aujourd'hui, il a envie d'assumer, il a envie d'être qui il est. Mais le problème, c'est qu'il est rejeté par tout le monde, et même par les LGBT. Et donc du coup, le but aussi, c'est d'ouvrir en fait ce lieu à ces personnes-là aussi. Donc vraiment, il y a plein de questions, plein de travail à faire. Il y a des gros besoins, donc du coup, forcément, des gros objectifs.
Ça a changé un peu la vision à l'école. Est-ce que au lycée, on est plutôt bien accepté, ou alors aujourd'hui, on voit des homosexuels dans les médias, un peu moins des transsexuels ou des queers, mais est-ce que, voilà, ça aujourd'hui, c'est un peu plus dans la norme.
La norme, j'aime pas le mot, mais...
C'est plus accepté, on va dire.
C'est plus facilement accepté. Il y a encore des difficultés, parce qu'il y a forcément une question d'éducation. Hein. Donc, du coup, des gamins qui ont été éduqués dans un système où on leur fait comprendre que l'homosexualité, c'est mal, ça existe encore. Et donc, du coup, quand ils arrivent à l'école et qu'ils apprennent que leurs collègues de classe, soit les lesbiennes, soit les homos, ou autre, hein, donc queer, intersexe, bi ou autre, donc du coup, c'est encore problématique, parce que les insultes, elles sont faciles. Et donc, du coup, et aujourd'hui, bon, certes, il y a quand même des professeurs qui sont présents, des encadrants aussi qui reprennent les choses, parce que bon, il y a une ouverture d'esprit qui est quand même beaucoup plus présente, parce qu'ils sont dans une génération aussi qui le veut.
Une bienveillance aussi ?
Une bienveillance, ça dépend.
Ça dépend, ouais.
Ça dépend. On va dire que, au niveau, oui, des encadrants et des enseignants, ou sûrement de la bienveillance, mais entre jeunes, non. Donc bien du sûr, coup, s'ils sont un petit groupe, on sait très bien, on a tous été étudiants, donc du coup, généralement, on se mettait avec les gens avec qui on s'entendait bien. Donc bien sûr, il va y avoir de la bienveillance entre eux, mais les autres ne seront pas bienveillants pour
autant. C'est vrai qu'au lycée, on est plutôt cruel avec ses camarades, c'est vrai. Ouais, au collège, c'est un peu différent. Au collège, ils sont un peu plus bienveillants que...
Au collège, bon, ça sort de la primaire, donc du coup, ils sont encore un tout petit peu enfants. Et donc du coup, c'est en grandissant, on commence à se faire vraiment une idée des choses quand on arrive en cinquième, quoi. Donc on va dire quatrième, troisième. Et après, il y a l'entrée au lycée. Donc du coup, là, attention, c'est l'entrée au lycée. C'est comme, on devient un grand.
L'émancipation un petit
peu. C'est un peu ça en fait. Donc du coup, j'ai un emploi du temps, j'ai des trous, je peux pouvoir me barrer pendant les cours. Et donc du coup, il y a moins de contrôle. Mais je veux dire, il faut travailler de tous les côtés de toute façon. Et donc, du coup, la base, de toute façon, pour éviter aujourd'hui qu'il y ait, en fait, moins de discrimination, l'école a son travail à faire, bien évidemment, mais c'est surtout les parents, en fait. Et donc, du coup, nous, on est d'une génération, je pense qu'on a à peu près du même âge, je ne vais pas t'insulter, hein, mais... Et donc, du coup, mais je pense qu'on va avoir on va éduquer peut-être nos enfants d'une façon où on va leur apprendre la tolérance, bien évidemment, et on sait que c'est des questions qui existent. Et donc, ça va faire quand même, depuis 2013, qu'il y a le mariage pour tous. Donc, du coup, on a le temps d'assimiler, etc. Donc les familles homoparentales, elles ont toujours existé aussi. Et donc du coup, il y a aussi cette question-là qui est problématique dans les écoles. C'est, lui, t'as vu, il n'a pas maman, un papa, il a deux mamans. Bah ouais, mais en fait, il a une force. Donc du coup, c'est pas une différence, c'est juste que c'est un couple comme un autre, et c'est une famille comme une autre. Et c'est ça aussi qu'il faut travailler. Mais bon, ça, c'est à l'origine, aujourd'hui, c'est les parents qu'il faut travailler. C'est plus... Mais bon...
Plus les enfants, encore.
Il est plus facile de travailler des enfants que des parents.
Oui. Là, c'est plus simple d'être LGBTQI+ en province ou d'être dans une grande ville ? On est plus anonymisé.
C'est sûr, c'est pas Paris, il y a personne qui fait attention à toi. Et donc, du coup, après, en province, et c'est pas. En ville, ça va encore. Mais si on habite un petit village de 300 habitants et que tu es le seul homosexuel du village, c'est sûr que ça va être un peu compliqué. Hein. Donc ils vont être persécutés. Moi, je me souviens, j'habitais un village quand j'étais jeune. Donc du coup, ma sexualité n'était pas forcément affichée à l'époque, même si beaucoup de personnes l'avaient compris. Il y avait un petit couple qui habitait au bout du village, un couple d'hommes. Et je me souviens, on disait « Ah, c'est la maison des PD ». Et donc du coup, mais juste ça, en fait, c'est discriminant, en fait. Et donc du coup, tu sentais bien, c'était des personnes qu'on voyait pas sur les activités,
du village, ouais.
Sur les fêtes du village, sur les activités où tu les voyais juste au magasin ou prendre leur voiture, faire un aller-retour. Parce que à l'époque, c'était comme un peu la famille de noirs du village, il y en avait qu'une. Hein, donc on a bien vu avec Camini quand il a fait sa chanson, je fais un petit rappel.
Marley Gaumont,
ouais. Donc Marley Gaumont, il a un peu stéréotisé le truc, mais c'était assez drôle. Mais c'est une vérité en fait. Il était le seul black, comme il disait très bien dans la chanson. Et donc du coup, c'est un peu la même chose avec les homos. En fait, c'était les seuls homos du village. Donc oui, il est difficile dans la zone rurale. On va pas dire forcément donc en province, mais en zone rurale, d'assumer sa sexualité facilement.
Est-ce que quand on est gay, alors ce soir il y a une projection au Cinéma Le Majestic sur l'Égypte. Est-ce que du coup quand on est gay ou LGBT ou QI+, est-ce qu'on gère ces voyages différemment? Ce soir c'est sur l'Égypte. Est-ce que il y a des pays qu'on s'interdit d'y aller ou on se dit?
Alors ça dépend des personnes. Il y a des personnes c'est pas les choses qui les touchent. Moi je sais personnellement que je choisis mes voyages en fonction du pays, bien évidemment, et en fonction en fait des droits qui y sont attribués. Mais ça me dérange pas non plus d'y aller. Hein. Je n'ai pas peur d'aller au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie ou autre. Pourtant, c'est des pays qui sont encore sensibles, qui sont également, même quelquefois, quand je parle du Maroc, je trouve qu'ils sont à même limite un peu plus tolérants que les Français. Et donc, du coup, Donc du coup, mais voilà, donc après il y a certains pays, voilà, donc on planifie pas forcément ses vacances par rapport à ça. Après, c'est, si on veut s'ouvrir aussi à la culture, il faut aussi aller dans des pays où où la culture n'est pas forcément celle qui nous accepterait.
Donc du coup, c'est quoi, on se cache plus, on se réfrène plus, on se donne pas la main, on se touche pas.
On fait attention.
Ok.
On fait attention, bien évidemment. Après, il faut partir aussi sur le principe que bon, il y a des cultes, certains cultes n'acceptent pas. Et donc, du coup, il faut travailler doucement avec ces cultes-là. Donc, du coup, ils ont leur religion, ils ont leur façon de fonctionner, ils ont leur culture. Donc, du coup, après, on ne va pas non plus les brusquer. Et donc, du coup, ça serait un peu une attaque, un tout petit peu. C'est comme si on était des terroristes homosexuels à se donner la main dans la rue, toi. Donc, du coup, on leur met un crime en pleine figure. Donc, du coup, voilà, bien sûr. Après, non, là-bas, si on va dans des pays comme ça, c'est plus sur la discussion et sur la narration qu'il faudra travailler que sur l'acte en lui-même de se donner la main. Bien sûr, moi, personnellement, je ne donnerai pas la main à mon conjoint si je me promène en Algérie ou autre, où c'est vraiment un acte fort de revendication.
C'est quoi du coup le pays le plus ouvert ? C'est l'Allemagne, c'est les États-Unis ? Enfin, les États-Unis, ça dépend où on va. Si on va en Californie, ça va. Si on va dans le Texas, c'est un peu moins cool.
Tu as vu qu'il y a quand même, le premier aujourd'hui, je suis en train de chercher, représentant d'État, qui est ouvertement homosexuel, donc qui a été annoncé en fait hier sur les réseaux sociaux. Je pourrais plus te dire son nom, mais
aux États-Unis,
ouais. Aux États-Unis, ouais. Donc, et je crois que c'est dans le. Non, je vais pas dire de bêtises, je préfère rien. Donc, je sais plus quel État exactement. Donc voilà. Non, le pays en fait où les LGBT, où l'ouverture aux LGBT sont vraiment très ouverts, à mon simple avis, ça reste donc tout ce qui est donc Canada-Québec. Et donc, du coup, ils sont vraiment très avancés sur ces problématiques. Et donc, du coup, puis pour connaître des personnes qui y ont vécu et qui reviennent en France après, ils n'ont qu'une seule envie, c'est qu'ils me disent bah, « je retourne là-bas parce que là-bas, je suis plus libre de vivre comme je suis ». Et donc, du coup, ouais, c'est un pays, le Québec, le Canada, ouais, ces deux pays sont pour moi les plus ouverts sur ce sujet. Après, il y a un peu l'Angleterre, je trouve qu'ils ne sont pas si fermés que ça sur ces problématiques. Et l'Espagne, l'air de rien, même si c'est un pays qui est très catholique, c'était quand même l'un des premiers à avoir ouvert le mariage pour tous. Et donc, du coup, ils n'ont pas fait une polémique, les petits cathos espagnols. Ils ne sont pas sortis dans la rue pour revendiquer tout ça. Pas autant médiatisé que ça a été fait en France. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, on n'a même pas compris parce qu'étant dans un pays laïque, de voir autant de haine déferler dans nos rues, ça a été un peu une problématique. Et donc, ça, on a un peu pesté.
Sur les politiques du coup français, alors on sait que même l'extrême droite aujourd'hui a des homosexuels dans ses rangs.
Philippot par exemple,
ouais. Est-ce que du coup ça...
Ça influe ?
Non, est-ce que pas ça influe ? Est-ce qu'aujourd'hui finalement on pensait que l'homophobie c'était plutôt pour l'extrême droite et pour les religieux et plutôt la côté progressif pour la gauche, on était plutôt bienveillant quoi ?
Alors du coup, moi je pense pas en fait que... Bon... Après, j'ai mon orientation politique, hein, bien évidemment, que je ne prononcerai pas en tant que personne aujourd'hui représentant d'association. Mais je veux dire, il y a des homos, donc bien sûr, bien évidemment partout. Il y a des partis politiques qui les défendent plus que d'autres. Je connais des homophobes de gauche, comme je peux connaître des personnes très ouvertes de droite sur l'homosexualité. Et donc, du coup, le fait est d'avoir un représentant... donc, du coup, pour moi, personnellement, de soutenir, en tant que personne LGBT, de soutenir l'extrême droite, ça devient inconcevable indirectement, parce que, bon, soutenir un parti qui est discriminant et qui discrimine n'est pas forcément représentatif. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai tendance à pas comprendre les personnes LGBT qui soutiennent ce genre de parti. Ce genre de parti, j'adore. Et donc, du coup, voilà. Bon, après, je viens un peu de me vendre sur mon orientation politique, mais c'est pas grave. Mais, et donc, du coup, je l'ai pas défini. Donc, du coup, non, après, comment, donc, pour revenir à ta question...
C'est un peu étrange, quand même, d'avoir des gens de l'extrême droite homosexuels.
Et il faut tout pour faire un manche. Et donc, du coup, avec humour. Et donc, du coup, c'est étrange. En fait, on se demande s'ils ont compris quelque chose. Personnellement, c'est mon simple avis. Hein. Je me demande s'ils ont compris réellement l'enjeu, en fait, de cette partie. Est-ce qu'ils sont aveugles ? Est-ce qu'ils n'ont pas compris quelque chose ? Est-ce que, en fait, c'est limite, si je dis quelque chose, si je dis, ouais, non, c'est pas bien, un homosexuel de droite ou qui vote extrême droite. Donc, du coup, j'ai l'impression de le discriminer en disant ça. Mais je veux dire, c'est pas, en fait, pour moi, c'est pas concordant. En fait, ça peut pas coller. En fait, on peut pas être une personne LGBT et voter pour l'extrême. En fait, les personnes qui sont clairement contre nous, parce que bon, voilà, on sait très bien les orientations politiques et surtout la population qui soutient ces partis-là.
La population qui est derrière, qui draine.
Donc du coup, voilà. Donc même si ils veulent pas se connoter donc raciste, homophobe, xénophobe ou tout ce que tu veux, mais derrière le problème, c'est que
l'historique
et la majeure partie des personnes qui soutiennent ces partis sont clairement homophobes, xénophobes ou autres. Donc du coup, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que j'expliquais que je ne comprenais pas pourquoi une personne LGBT pouvait soutenir ce genre de parti. Après, donc c'est mon simple avis. Hein, donc du coup,
vous, d'un point de vue local, ça vous intéresserait de rentrer dans la vie politique compiénoise
On l'a proposé.
Ouais, c'est quelque chose qui est important pour faire porter ses idées, d'être dans une municipalité, de rentrer dans la politique.
On me l'a proposé, en fait, de faire partie de la liste électorale, d'une liste électorale sur Compiègne, donc du coup, contre, donc, bien sûr, une lutte opposante à Marigny. Ça pourrait ouvrir des facilités. Après, c'est pas forcément mon objectif. Je peux rencontrer des potentiels futurs élus ou des élus, ou même des actuels, hein, donc du coup, et très bien travailler quand même malgré tout. Après, d'avoir une identité politique sur la ville de Compiègne, sachant que je suis adhérent à aucun parti, donc du coup, ne m'intéresse pas.
Mais souvent, dans les petites villes, tout ça, c'est souvent hors parti, c'est souvent des agglomérats. Là, aujourd'hui, on le voit pour Philippe Marigny, il y a des gens de l'UDI à l'intérieur, il y a des gens qui sont un peu plus à droite.
En fait, généralement, ils ont un peu une municipalité très apolitique.
Très apartisane, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup, il y en a un peu de tous les côtés, de tout partout. Ce qui n'est pas plus mal, parce qu'au final, ça fait la diversité des choses. Généralement, dans les petites villes, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc, du coup, il y aurait possibilité de travailler, mais je trouve peut-être un peu trop borné sur ces choses-là pour pouvoir, en fait... je dirais pas que je m'ouvrirais pas. Je m'ouvrirais, bien évidemment, mais j'ai pas envie, par exemple, si je rentre dans un parti politique, du moins, dans une mairie, en fait, dans un conseil municipal ou autre, qui est connoté, par exemple, de droite ou de République En Marche, ou autre, ça va me déranger parce qu'on va m'identifier à des choses qui ne me correspondent pas. Je ne cache pas que ça aurait été peut-être plus un parti socialiste ou autre, j'aurais peut-être plus facilement été de dire oui.
C'est plus sur la politique nationale, en fait.
Voilà, c'est ça.
C'est plus en désaccord sur la politique nationale. On va écouter un extrait musical, on va écouter It's Working, c'est MGMT, c'est un vieux titre qui traîne dans la prog. Le morceau est plutôt cool pour la matinale et on se retrouve juste après.
Yeah.
La matinale sans graphite, www.graphite.net, 94.9 FM, également disponible sur vos smartphones. Et puis maintenant, on est en podcast. Si vous voulez récupérer le RSS, allez faire un tour sur la page, sur la page de la radio, sur le site internet et également sur la page Facebook. Il y a tous les podcasts depuis cette année, en 2019. Et on est toujours en compagnie d'Olivier Franqueville pour parler de l'association Clin d'œil LGBTQI+. Et on vous rappelle que ce soir, il y a une projection, c'est Al-Sissi, bon baiser du Caire. On aura tout à l'heure quelqu'un en interview par téléphone pour nous parler de cette soirée au Majestic. C'est à partir de 20h et il y aura également des échanges dans la salle après la projection. Là, c'est quoi, c'est quand la vote de projection
Alors là, on n'en a pas replanifié pour l'instant. Donc du coup, on est en train de voir parce qu'en fait, on a la volonté en fait, et on a la chance aussi que le Majestic en fait, nous laisse le choix du film. Donc du coup, on leur fait des propositions. Après, nous, ils nous disent s'ils sont OK. Dernièrement, en fait, il y a un film qui était fort, qui est sorti, qui s'appelle Sauvage. Je ne sais pas si tu en entends parler un tout petit peu. Ça parle un peu de la prostitution chez les LGBT, un tout petit peu, on va dire, en gros, grosso modo.
En Europe ou en France, ouais.
En France, ouais. Et donc du coup, c'est un peu, tu vois, je pense que tu as dû voir aussi 120 battements par minute. C'est un peu sur le côté où on travaille une thématique qui est difficile. Donc 120 battements par minute, c'était Hight Up.
Dans les années 90.
Là, on était vraiment en fait plutôt dans les années en fait 2000-2010, voire aujourd'hui. Hein. Et donc du coup, où on parlait vraiment d'un jeune homme en fait qui se prostituait et qui en fait derrière pouvait quand même avoir des sentiments et tomber amoureux en fait
de ses clients.
Et donc du coup, c'est un film qui était fort, qui est dur, mais qui en dit long. Sans mauvais jeu de mots. Et on travaille beaucoup de thématiques. On avait demandé la diffusion de Il ou Elle, en fait, qui parle un peu de la transidentité, comme c'est une thématique en fait qui est encore très méconnue. On a vraiment un point d'honneur à travailler sur cette problématique. On essaye de diversifier et même après de repasser des films qui sont vus. Hein, donc c'est pas un problème. Là, on n'a pas encore programmé le prochain film. On n'en a pas réellement discuté. Comme là, on est vraiment sur le début de l'association, donc on se laisse un tout petit peu un temps aussi de faire les choses correctement administrativement.
D'organisation, ouais, c'est ça.
Donc on s'organise et après, on verra vraiment mettre les choses en place. De toute façon, on fera un calendrier qui sera publié sur les réseaux sociaux. Parce qu'on peut nous trouver sur Facebook, hein, bien évidemment. Hein, vous cherchez juste association, donc clin d'œil LGBTQI+.
On mettra les infos aussi sur la page de la radio.
D'accord. Et donc, du coup, je te laisserai l'adresse mail dans ces cas-là aussi. Donc du coup voilà, donc la ligne téléphonique n'est pas encore ouverte, hein. Donc du coup parce qu'on a affaire à une ligne d'écoute aussi à des horaires ponctuels, c'est un des projets aussi de l'association. Donc du coup en attendant de pouvoir avoir des permanences, on fera une permanence physique, on fera des permanences téléphoniques. Donc du coup j'ai la chance d'avoir des horaires qui sont quand même assez cool au niveau de mon taf personnel et donc du coup le téléphone il peut être à côté de moi et donc du coup je peux y répondre assez facilement ou autre hein, pour mes collègues de l'association hein, parce qu'il n'y a pas que moi qui travaille hein, donc on est une sacrée équipe, ça on vous le cache pas, j'aurais vraiment plaisir à vous tous la présenter, vous la faire rencontrer si vous avez l'occasion de nous rencontrer sur Compiègne lors de nos actions, hein, donc du coup, bien sûr. Donc c'est quelque chose, une volonté aussi. Tout à l'heure, je t'ai envoyé un petit message sur Graffiti, sur ta page Facebook. Et donc du coup, parce qu'en fait, je sais qu'il y a eu une association LGBT, qui s'appelait Outcoming, je crois.
Outcoming, ouais. Maintenant, c'est devenu UTC pour tous.
UTC pour tous. Ouais. Donc c'est toujours une association qui traite la thématique ou
C'est plus inclusif, ça.
Ça englobe beaucoup de choses.
C'est ça. Ça fait des apéros, enfin plutôt des déjeuners féministes entre femmes, ce genre de choses.
Ouais, c'est que des choses qui sont intéressantes. Donc du coup, parce que nous, on a bien envie aussi de créer en fait des ateliers en fait où les femmes parlent entre femmes, les hommes parlent entre hommes. En fait, du coup, on peut parler de thématiques de sexualité ou autre, et où on peut de sexe, c'est con à dire, hein, et donc du coup c'est des ateliers qui pourraient nous intéresser, donc du coup c'est pour ça que je savais pas si ça existait toujours ou s'il y avait toujours quelque chose qui se faisait sur le sujet.
Là ils sont en vacances, là, les étudiants, ils sont partis en vacances jusqu'au mois de février, jusqu'à la fin du mois de février, mais ensuite ils vont revenir pour une nouvelle rentrée. Ça se passe comme ça, l'UTC.
D'accord, parce que je comprends un peu le truc. Et donc du coup, moi, ce qui nous intéresserait aussi, c'est un tout petit peu de rencontrer les UTC1, parce que je suppose que c'est comme ça qu'on les appelle.
Ouais, c'est ça.
Et donc du coup, pour pouvoir justement travailler un un tout petit peu avec eux. Et donc, du coup, si l'acceptation existe toujours, bah, je les invite à aller. J'aimerais bien les rencontrer. Donc, du coup, je suis un peu la percussion. Là, donc, je glisse mes trucs tranquille.
Et là, ils sont. Ouais, il faudra revenir, mais on pourra aller te mettre en contact avec eux. Il n'y a qu'un problème. Est-ce que de voir sa tête dans les journaux, d'être un petit peu la vitrine de l'association, c'est facile? Est-ce qu'au quotidien, est-ce qu'il y a eu des soucis? Est-ce qu'on reçoit des animaux morts encore dans sa boîte aux lettres ou ce genre de choses?
Non, pour l'instant, j'ai encore rien eu. Donc
parce que je vois que sur Internet, en tout cas, les messages sont plutôt bienveillants. Là. En général, c'est merci à toi de l'élan de nous avoir embarqué avec toi dans l'aventure, etc. Enfin, il y a pas mal de messages
qui sont
plutôt cool.
Oui, parce que c'est des gens qui suivent l'association. Et donc, du coup, bien sûr. Après, c'est vrai, quand les articles ont été publiés par Le Parisien, et donc sur les réseaux sociaux, ou même sur le Courrier Picard, parce qu'il y a le Courrier Picard qui a fait un article également, j'avais un tout petit peu l'appréhension de me dire, bon, c'est vrai qu'il y a quand même la photo de mon équipe, parce que le Courrier Picard a mis la photo de toute l'équipe, et après il y a aussi la mienne, donc pour Le Parisien. Moi, c'est une question d'habitude, hein, donc j'ai pris l'habitude d'être médiatisé depuis quelques années sur Amiens. Bon, ça fait 8 ans que je suis dans le milieu associatif, et donc du coup, c'est pas un problème. Pour l'instant, sur Compiègne, j'ai rencontré aucun problème. Pour l'instant.
Tant mieux.
Et donc, tant mieux, on va dire. Mais il m'est déjà arrivé d'avoir des soucis autres. Hein, donc, du coup, bien évidemment, attention, regarde, c'est le PD qui est paru dans le journal. Donc, du coup, ou même quand il y avait des reportages télévisuels, où, donc là, en plus, il y a le physique, on voit la personne qui bouge, qui parle. Et donc, on a tendance à plus facilement retenir la chose. Et donc, du coup, oui, des insultes, j'en ai déjà pris. Mais bon, ça ne me touche pas, en fait, ça ne me touche plus. Dans le début, ça me touchait. Au contraire, aujourd'hui, ça me fait sourire et je suis prêt à aller les rencontrer pour discuter avec eux.
La prochaine rencontre, c'est quand? La date exacte? Est-ce qu'il y a
déjà... La date exacte n'est pas encore fixée.
On la retrouvera sur Facebook?
On la retrouvera sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Donc du coup, on sait que c'est en février. Donc du coup, est-ce que ça va être... Donc ça sera forcément l'apéro en fait, de lancement de l'association. Donc du coup, voilà, ça sera l'apéro officiel, le premier apéro officiel de l'association. Il y aura donc peut-être une petite soirée qui sera organisée aussi pour pouvoir mettre ça d'un côté festif, de dire « Attention, on est arrivé, c'est nous On débarque sur Compiègne, donc vous inquiétez pas. » Donc il n'y aura pas les strings, les paillettes dans les rues de Compiègne. La Gay Pride, elle n'est pas encore prévue pour Compiègne pour l'instant. Donc du coup, mais il ne faut pas oublier que c'est une marche des fiertés et non une fiesta. Et donc du coup, donc voilà. Mais je veux dire, non, il y a des activités qui vont être prévues pour l'instant, comme elles sont pas fixées, j'en parle pas réellement parce que tant qu'on n'a pas de date, qu'on n'a pas fixé les choses, donc du coup voilà, il faut juste simplement suivre sur les réseaux sociaux et après voilà, ou nous envoyer des mails. Donc du coup, l'adresse mail, donc on la remettra, je te la donnerai, tu la mettras tout simplement
sur la page Facebook,
etc. Et donc du coup, non, il y a des projets. Donc du coup, il y a surtout un projet fort, et donc du coup, j'ai envie d'en parler, c'est qu'on veut déposer, en fait, parce qu'on oublie un peu qu'il y a eu des déportés. On sait que Compiègne, c'est une ville qui est forte, parce qu'on a quand même eu un camp de concentration pour les personnages politiques. Donc du coup, mais on oublie souvent qu'il y a eu des déportés homosexuels.
Les triangles roses.
Les triangles roses, voilà, exactement. Donc du coup, de façon que vous allez sûrement retrouver dans le logo de l'association qui est en création. Et donc du coup, en fait, on a vraiment pour projet, en fait, de demander à la mairie s'ils veulent nous accepter sur leur cérémonie pour pouvoir déposer une gerbe de fleurs en fait en mémoire aux personnes donc déportées homosexuelles, moi dire LGBTQI+, parce qu'il y avait des LGBT, on va dire, plus à l'époque. Mais je veux dire, donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que c'est bien de penser à l'avenir, mais il faut pas oublier son passé. Et donc du coup, parce qu'il y a une culture LGBT qui est présente, qui est méconnue malheureusement, hein, donc du coup tous les LGBT ne savent pas ce que c'est le triangle rose, et donc du coup je les invite à aller voir, tiens, à aller découvrir un tout petit peu ça. Et donc du coup voilà, après il y a la semaine du 17 mai, parce que le 17 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie au monde, hein, donc la journée d'AOT. Et donc, du coup, on a l'intention, en fait, d'organiser donc quelques actions sur la semaine. Donc, du coup, ça peut être un kissing, un free hugs, ou tout simplement une action en centre-ville, ou un micro-trottoir qui peut être cool. Donc, du coup, voilà, il y a des petits projets qui vont se mener, et donc, du coup, c'est des choses qui seront diffusées, bien évidemment. Donc, du coup, voilà. Donc, après, s'il y a des personnes qui sont intéressés, donc même si vous n'êtes pas forcément LGBT, donc qui pourraient nous aider à mettre en place ces actions, ou qui seraient intéressés à découvrir l'association, n'hésitez pas à nous contacter. On serait vraiment ravis de vous accueillir. On a besoin de vous.
On rappelle la page Facebook Association Clin d'œil LGBTQI+. On mettra tout ça sur la page Facebook de la radio. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de cette association. N'hésite pas à revenir pour nous parler de la suite, de l'avancement,
ouais,
etc.
Soucis,
avec
hein.
Grand plaisir.
Tu m'invites quand tu veux. Je viens, moi, il n'y a pas de problème. Donc du coup, j'essaierai de venir avec quelques membres de l'équipe, parce que là, c'est c'était un peu spontané. C'est vrai que on a discuté tranquillement ce matin au réveil. En plus, ça pique encore un peu les yeux. Et donc du coup, tu m'as dit, bah, viens, vas-y, on fait la matinale. Et donc du coup, bah, je suis là. Et donc j'ai pas eu le temps de prévenir toute mon équipe. Ils vont avoir la surprise un tout petit peu de découvrir ça demain. De ce matin, pardon, je suis un peu à l'ouest. Hein. Et donc du coup, voilà. Je te remercie de m'avoir invité.
Et nous, on va écouter un extrait musical. Juste après, on aura l'interview d'une des membres de la FIDH, du bureau Afrique du Nord et Moyen-Orient. Car ce soir, il y aura un ciné-échange au cinéma Le Majestic avec Al-Sisi. Bon baiser du Caire, il me semble, si je dis pas de bêtises, ça sera 3 petits films. C'est à 20h et il y aura la présence d'un médecin défenseur des droits de l'homme égyptien. Il y aura également l'observatoire des armements, puisqu'on vend des armes du coup à l'Égypte. Donc ce soir, mardi 22 janvier, on écoute tout de suite au Tiger Mountain et juste après, on sera en compagnie d'Anissa Dabouzi de la FIDH du bureau Afrique du Nord et Moyen-Orient. Tout de suite, Paul Elpan avec le titre Canopée. Bien, finalement, nous serons bien en compagnie d'Anissa Dabouzi de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Elle sera ce soir à Compiègne pour cette projection événement ciné-échange avec le titre du documentaire. Ça s'appelle Al-Sisi, bon baiser d'Iker. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne. On revient assez rapidement sur qu'est-ce que la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme. On connaissait plutôt l'antenne locale. C'est quoi le côté international de la Ligue des droits de l'homme ?
Alors, en fait, on est une organisation différente de la Ligue des droits de l'homme, et la Ligue des droits de l'homme est l'organisation membre de la FIDH, donc qui est notre organisation, la Fédération internationale des droits humains. Et c'est notre organisation membre en France. Et nous, en tant que fédération, on a une centaine d'organisations membres dans plus de 100 pays au monde. Et voilà, en France, notre représentant, c'est la Ligue des droits de l'homme. Mais on a, nous, un secrétariat international qui est aussi basé à Paris. Et donc, toutes nos activités qui ont un lien avec ce qui se passe en France, on les mène conjointement avec la Ligue des droits de l'homme.
Là, vous êtes spécialisé sur le bureau Afrique du Nord et Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du documentaire Al-Sisi, bon baiser du Caire ?
Oui, bien sûr. Alors, le documentaire, c'est un documentaire qui dure à peu près 50 minutes, qui a été réalisé par Maté Bensé, qui est un réalisateur hongrois, qui est un journaliste qui a travaillé pendant plusieurs années au Caire. Et qui, dans ce documentaire, en fait, il démontre assez brillamment l'état de la répression systématique en Égypte contre toute forme de dissidence. Et donc, il nous montre un peu le côté obscur du dictateur Al-Sisi, qui, sous couvert de lutte contre le terrorisme, va en fait réprimer toute forme d'opposition, de dissidence ou de simplement de lutte pour les droits humains.
Donc là,
dans le documentaire, il y a des vidéos qui ont été filmées clandestinement, il me semble, en Égypte, mais il y a surtout, ce qui est très intéressant, des témoignages de victimes d'actes de torture qui sont des activistes maintenant en exil, parce que sinon ils ne pourraient pas témoigner à visage découvert. Et il y a un de ces activistes qui témoigne dans le documentaire qui sera présent à la projection débat qu'on organise, qui s'appelle Taher Mokhtar, et qui sera avec nous pour donner son témoignage aussi de façon directe dans la salle.
Là, c'est le droit des homosexuels, mais également le droit des syndicalistes. Enfin, qui est pris dans toute cette répression, en fait ?
Ah ben alors, c'est très très large. Hein. Malheureusement, la situation est telle que toute dissidence, mais à tout dissidence prise dans un terme très large. Donc, on a des attaques contre les activistes, contre les défenseurs des droits humains, contre des défenseurs des droits des femmes. Par exemple, une activiste qui s'appelle Amal Fatri, qui a témoigné contre le harcèlement sexuel dans les rues du Caire, a été emprisonnée récemment. On a la communauté LGBT qui est victime aussi d'attaques très, très féroces. On a des figures d'opposition, de certains partis d'opposition qui ont été aussi emprisonnés, qui sont victimes de harcèlement judiciaire. On a des disparitions forcées contre des simples citoyens, contre des syndicalistes, contre n'importe qui s'opposerait un tant soit peu à ce que le pouvoir, donc l'armée au pouvoir, cherche à imposer.
Ouais, hier, il y a eu un an de prison pour un journaliste qui a interviewé un homosexuel sur un plateau de télévision. En plus, il n'a pas été tendre dans son interview. Hein. Ce n'était pas une interview de complaisance. Comment ça se fait qu'on arrive à des énormités comme ça ? Un an de prison, 3000 livres égyptiennes, 130 euros d'amende pour ce genre d'interview à la télévision.
Malheureusement, c'est vraiment monnaie courante. C'est-à-dire que là, on parle du chiffre d'environ 60 000 prisonniers politiques en Égypte. Avec des actes de torture quasi systématiques en détention, avec des disparitions forcées. On a dénombré, une ONG a dénombré près de 129 morts dans les prisons en 2017. Donc on est vraiment sur des violations très graves des droits humains et des choses qui sont vraiment incontestables, c'est-à-dire que c'est documenté par toutes les ONG qui sont à la fois les ONG internationales et les ONG qui continuent malgré tout à faire leur travail de documentation sur le terrain. Donc là, on est à un stade où c'est indéniable où la situation est réellement aberrante, et on se demande vraiment comment les États occidentaux, qui continuent d'être partenaires parfois privilégiés de l'Égypte, continuent de garder le silence sur les violations graves des droits humains qui sont en cours.
C'est quoi le rapport entre la France et du coup l'Égypte ? La France vend des armes à l'Égypte ?
Oui, alors nous, ce qu'on a documenté, ce que la FIDH, avec ses partenaires, donc la Ligue des droits de l'homme et notre ligue membre, notre organisation membre en Égypte, le Cairo Institute, a documenté dans un rapport qui a été publié au mois de juillet dernier, on démontre une augmentation spectaculaire des ventes à la fois d'armes et de technologies de surveillance. Donc il faut savoir que les technologies de surveillance, elles peuvent servir à l'arrestation, à la surveillance généralisée de la population, ce qui amène donc à des arrestations, des mises sur écoute. Ça permet d'informer les services de sécurité égyptiens. Et donc, ces augmentations des ventes, pour nous, sont dans un contexte où la France sait parfaitement ce qui se passe sur le terrain en Égypte et ne devrait interrompre, en fait, ces ventes. Et pour nous, il y a un véritable enjeu, étant donné qu'il y a un traité sur le commerce des armes, une position commune de l'Union européenne qui encadre tout ce qui est vente d'armes et de matériel de surveillance pour éviter justement que ces matériels et ces armes ne puissent être utilisés pour commettre des violations des droits humains. La France devrait suspendre en tous les cas ses ventes actuelles. Et ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Donc c'est ce qu'on a documenté dans un rapport au mois de juillet. Nous, on a fait un grand travail pour essayer d'alerter sur ces questions-là. Et aujourd'hui, on voit que tout ce travail mène à peu de résultats parce qu'on est plus de 6 mois après la publication de notre rapport. On voit que la situation des droits humains ne cesse de se dégrader, que toutes les ONG continuent de dénoncer et que par ailleurs, les négociations vont bon train sur la vente de nouveaux Rafales, sur des contrats, sur des drones. Nous, ce qu'on est en train de demander, c'est de suspendre ces exportations, de faire la lumière sur ce qui s'est passé, à quel moment, est-ce que c'était vraiment légal de vendre à l'Égypte ces différents matériaux qui ont été vendus. Et par ailleurs, ce qu'on est en train d'essayer de faire passer, et c'est aussi pour cette raison qu'on organise un débat ce soir à Compiègne, on fait un petit peu le tour de différentes villes de France et on essaye d'obtenir la création d'une commission parlementaire permanente et d'avoir vraiment... de mobiliser le plus possible nos députés français sur ces questions-là pour dire le Parlement a un rôle à jouer dans le contrôle de ce que fait l'exécutif et doit jouer son rôle de contre-pouvoir réellement et s'assurer que les ventes se font en toute légalité.
C'était déjà le cas sous François Hollande, c'était pas uniquement sur Emmanuel Macron, ces ventes d'armes avec l'Égypte.
Alors tout à fait. Nous, ce qu'on a documenté dans notre rapport, c'est qu'il y a une vraie continuité entre ce qui s'est passé sous Hollande et sous le président Macron depuis 2013, qui correspond au moment de la reprise du pouvoir par l'armée en Égypte, au moment du coup d'État. On observe une véritable un boom des ventes. Et oui, donc pour nous, il n'y a pas de différence entre le gouvernement. Le président précédent et le président actuel.
Ok. On vous retrouve ce soir au cinéma Le Majestic pour ce ciné-échange. Il y aura également un membre d'Observatoire des armements. C'est Tony Fortin qui sera avec vous.
Tout à fait, qui est aussi notre partenaire et qui a rédigé avec nous le rapport dont je vous parlais tout à l'heure, que je vous invite à tous lire parce qu'il est très riche d'informations et assez accablant à la fois pour les autorités égyptiennes et malheureusement pour les autorités françaises dans leur... silence par rapport à la situation et dans leur soutien inconditionnel à ce régime dictatorial.
Et on le retrouve sur le site internet
Il est sur le site internet de la FIDH et oui, on rappellera ce soir, on distribuera aussi d'autres éléments de communication avec nos messages principaux. Et puis ce qu'on appelle surtout, c'est aussi une véritable mobilisation citoyenne, c'est-à-dire que en tant que citoyen engagé français, on a aussi un rôle à jouer de ne pas fermer les yeux sur ce qui se passe en Égypte, de ne pas fermer les yeux sur le fait que notre politique étrangère, nos élus sont en train de jouer dans leurs négociations et dans leur partenariat privilégié avec l'Égypte. Et c'est aussi à nous de faire pression sur nos députés et de leur demander d'agir et de respecter les engagements internationaux de la France.
Anissa Dabboussi, merci beaucoup d'être venue dans nos studios, enfin par téléphone, et rendez-vous ce soir à 20h au cinéma Le Majestic. Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir, très bonne journée.
Et voilà, ainsi termine l'émission, la matinale. Retrouvez là sur internet si vous l'avez loupé, www.graphite.net. Les podcasts, vous pouvez vous abonner en RSS et n'oubliez pas ce soir, Al-Sissi, Bon Baiser du Caire, 20h au cinéma Le Majestic, ciné-échange, c'est entrée libre, en plus il n'y a pas de tarif. Donc voilà, allez, bonne journée, bon courage et à demain. Et demain on sera avec l'association Boomker.